nous plaise. Dans le chapitre 13, nous sommes arrivés à présent. C'est le livre des origines. Hop là. Et ce matin, je vous propose de faire la lecture de Genèse chapitre 13 et 14. Et on va voir, découvrir la foi d'Abraham. Je fais la lecture, donc Genèse chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Éléazar, de Kedorlaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, et à Shéméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers assemblèrent toutes les vallées de Sidim, qui est la mer salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche et ils bâtirent Réphaïm à Ashteroth-Karnaïm, les Umim à Ham, les Emim à Chavé-Kirjataïm. Je fais une petite pause. Je suis dyslexique en plus. Hein. Donc, bon, il y a de l'espoir pour des dyslexiques. Et les Oriens dans les montagnes de Séhir jusqu'aux chênes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens étaient établis à Ashtaroth-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Élasar. 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Adner. qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui, ses serviteurs et les bâtis. Il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut. » Maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Jusqu'ici, la parole de Dieu. La semaine dernière, on a vu Abraham appelé par Dieu, Abraham suivre Dieu par la foi, et puis sa foi défaillit lorsqu'il descend en Égypte au moment de l'adversité. Et donc si Abraham défaillit, Dieu lui a été fidèle en toutes choses. La foi d'Abraham s'en trouve alors fortifiée, et comme nous le voyons ici dans cet épisode. La manière la plus courante de nous présenter et de dire nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes des disciples de Christ et nous avons raison de dire que nous sommes des croyants, et ça nous caractérise beaucoup mieux de dire que nous sommes des croyants plutôt que de nous dire je suis ingénieur, je suis pasteur ou je suis maçon, ou de dire je suis chinois, je suis congolais ou je suis français. On est mieux défini ainsi parce que c'est réellement ce que nous sommes, et c'est ce que nous sommes pour l'éternité. Notre identité fondamentale, elle est en Christ, en qui nous avons placé notre confiance pour le salut de notre âme, mais aussi pour notre vie présente et pour notre vie à venir, pour notre éternité. Notre foi, notre confiance en Dieu, devrait donc caractériser notre marche ici-bas. Notre vie devrait être différente à cause de la foi qui nous anime. La foi fait la différence dans nos vies. Et la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que, effectivement, dans ma vie, c'est la foi qui fait la différence? Est-ce que mon entourage, ceux qui me voient vivre, ceux qui apprennent à me connaître, ils disent « lui, il est quand même bizarre ». Sa vie est différente. Il a placé sa confiance en Dieu et ça détermine sa manière de gérer ses relations avec dans sa famille ou avec ses collègues. Ça fait une différence dans son engagement et dans la manière d'accomplir les choses. Ça fait une différence dans sa vie parce qu'il cherche véritablement à glorifier Dieu. Et donc ce matin, j'aimerais voir avec vous que la foi d'Abraham est la solution pour régler les conflits. La foi d'Abraham, c'est aussi la solution pour accomplir ce qui est juste. Et puis la foi d'Abraham, c'est la solution pour donner gloire à Dieu. Regardons d'abord pour régler les conflits. Ça, c'est ce qu'on voit dans la première partie, dans les versets 1 à 18. La querelle éclate entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Ils sont tellement nombreux, ils ont tellement de bétail que la contrée ne suffit pas pour faire paître toutes ces bêtes. Dispute pour les meilleurs pâturages, dispute encore pour qui sera le premier à faire boire ses brebis à la rivière ou au puits. Et le ton monte. Vous avez vu, il y a une petite précision, verset 7b, il dit « Les Cananéens et les Phérisiens étaient alors dans le pays. » Les Cananéens, les Phérisiens, ça signifie qu'ils devaient déjà occuper la meilleure partie et donc, du pays. Et donc les bergers d'Abraham et de Lot se répartissaient un peu la moins bonne part. Mais l'autre chose qui est dite ici, c'est que les Cananéens et les Phérisiens observaient Abraham et Lot dans leur comportement. Et cette dispute entre leurs bergers était un témoignage malheureux, sachant en effet qu'il y a toujours des témoins à nos querelles. Il y a toujours un voisin qui est gêné quand le ton monte dans l'appartement. Il y a les enfants qui sont témoins de cela. Il y a les frères et sœurs, il y a les amis. On ne peut pas se disputer tout seul. Ça a toujours un impact. Abraham, qui rappelle constamment à Lot, qui son frère, et on sait qu'il est pourtant son oncle, le chapitre 14, verset 12 le dit. Et Abraham, lui, il ne se prévaut pas de ses droits en tant qu'aîné ou en tant qu'héritier de ce pays, détenteur, lui, de la promesse. Non, il laisse le choix à Lot. Verset 9, il lui dit « Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Pense ce que tu veux. Je garderai le reste. » Abraham, il prie Lot de choisir un endroit pour sa famille et pour son bétail, lui-même acceptant ce qui resterait. C'est très fort, cette pensée-là. Et si on veut régler des conflits dans nos familles, si on veut régler des conflits même au sein de l'Église, il faut accepter de prendre cette attitude, celle du Seigneur, c'est-à-dire de s'abaisser, d'accepter de perdre pour gagner la paix. Lot, lui, il fait ses choix, et il fait ses choix par la vue. Le verset 10 dit « Lot leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain. » Et il fait ses choix pour lui-même. Il faut dire ici, c'était comme, la Bible précise ici, c'était comme un jardin de l'Éternel, c'était comme Éden, c'était comme l'Égypte. Dans le chapitre précédent, ils sont descendus en Égypte tellement, il y avait la famine, mais en Égypte, il y avait toujours de quoi manger, il y avait le Nil qui abreuvait. Et lui, ça lui rappelle ses vacances, ses grandes vacances passées il y a quelque temps en Égypte. Et il dit, waouh, c'était fantastique. Je vais pouvoir encore m'installer là et profiter. Et vous savez, le calcul est vite fait pour lui. Il n'y a pas photo. Il se dit, mes brebis, elles préfèrent manger de l'herbe que des cailloux. Mes brebis, elles préfèrent boire l'eau du Jourdain plutôt que le sable du désert. Et donc, il se pense, la facilité et puis la fortune sont dans cette direction-là. Et puis, verset 11 précise, Lot choisit pour lui. Lot choisit pour lui. Ça fait une grande différence. Dieu choisit pour Abraham. Mais Lot choisit pour lui, pour lui-même. C'est-à-dire, il a choisi sans considération pour Abraham. Pour son oncle, sans considération de ce que Dieu veut. Et puis la Bible dit ici, Lot dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et précision est faite ici au verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Considérons à présent les motivations d'Abraham. Au verset 8, il nous est dit, sa motivation, il dit, mais nous sommes frères. On est frères, même famille. On ne peut pas se disputer. La relation fraternelle, à ses yeux, aux yeux d'Abraham, elle est beaucoup plus précieuse que la fortune. Les gens lui sont préférables au bien. Les relations fraternelles, elles sont éternelles. Les biens de la terre sont passagers. Et c'est d'ailleurs certainement une des raisons pour la précision du verset 10 où il dit « Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. » Il dit « Avant que l'Éternel ne détruise. » Il dit, c'est-à-dire, tout ce que Lot a vu, tout ce qui l'a décidé pour faire son choix, c'était destiné à être détruit par le feu. Et ça, dans les mois ou les années qui ont suivi. Et tous nos biens sont aussi destinés à cela. Abraham a fait son choix par la foi. Il a vraiment fait son choix dans cette disposition de cœur. Pourquoi est-ce qu'il peut être aussi magnanime quand il dit, voilà, tu prends ce que tu veux? Est-ce que ça se passe comme ça chez vous? Au moment du dessert, on coupe le gâteau. Et là, prends ce que tu veux. Je prendrai le reste, s'il en reste. Quand vous êtes à table chez Bourrel, il faut se méfier hein, si vous dites un truc comme ça. Je dis ça pour nos invités de ce midi. Comment est-ce qu'il peut agir de la sorte avec Lot? Il croit dans les promesses de Dieu à son égard. C'est ça qui fait la différence. Il sait que Dieu a promis de lui donner tout le pays. Alors peu importe ce que Lot choisit pour l'instant, Abraham attendait que Dieu le lui donne en son temps. Et c'est cela qui le garde en paix. Lot l'a pris pour lui. Dieu l'attend de la part, Abraham l'attend de la part de Dieu. Et c'est ce qu'on voit juste après. Dieu profite de cette nouvelle séparation pour redonner à Abraham la promesse de la possession de tout le pays. Mais en plus d'une postérité qui nous pourrait être comptée. Ça, c'est les versets 14 à 16. Vous vous souvenez, quand Abraham a reçu la première fois la promesse, il lui a dit, tu vas quitter ton pays, tu vas quitter ton père, tu vas quitter toute ta nation, et puis je te bénirai, et puis je te donnerai un pays, et puis je te donnerai une postérité. À chaque fois que Abraham se sépare, Dieu lui donne la promesse. Et là encore, Abraham se sépare de Lot, c'est coûteux. Mais Dieu lui donne la promesse. Il lui redonne la promesse. Regarde, regarde, regarde. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu regardes au nord, au midi. Tout ça, c'est pour toi. Je le donne. Et puis non seulement je te donne ce pays, mais je te donne aussi une postérité. Abraham, il n'a pas d'enfant là, à cette époque. Sarah est toujours stérile. Il lui dit, je vais te donner une nation. Je vais te donner une postérité nombreuse comme la poussière de la terre. Si quelqu'un peut compter la poussière, alors on pourra aussi compter ta postérité. Extraordinaire promesse. Abraham, il montre qu'il y a un moyen pour résoudre les conflits. C'est la renonciation à soi-même. C'est une histoire de choix ici. Lot marche par la vue et choisit sur la base de ce qui lui plaît. Son choix, il est égoïste, il est égocentrique, en vue de ses intérêts immédiats. Mais comme nous le montre la suite du texte, ses choix sont dangereux. Ils sont de courte durée, car tout n'est pas comme il paraît. Tout n'est pas comme il paraît. Les villes de Sodome et Gomorre ne sont pas aussi désirables que cela. Abraham, lui, il est généreux, il est magnanime, parce qu'il sait que ce n'est pas par sa propre force qu'il entrera en possession du pays promis, ni en le gardant jalousement pour lui-même. Dieu va lui donner et il sait à qui il doit sa prospérité. Ceux qui croient à la providence de Dieu peuvent être généreux avec leurs biens. Ceux qui sont avares, anxieux, cupides, n'ont pas compris la nature de l'alliance de Dieu. Et c'est là où joue la foi. Si j'ai cette absolue confiance que c'est Dieu qui pourvoit à mes besoins, alors je peux être généreux, parce que Dieu continuera à pourvoir à mes besoins d'une manière merveilleuse. Si je pense que c'est moi, par mes propres efforts, par mes stratégies, par mon intelligence, par ma sagesse, par ma rigueur, qui prospère, alors je vais avoir tendance à vouloir tout contrôler. Et Abraham, lui, il a cette confiance en Dieu. Il s'en remet à lui et du coup, il peut à nouveau bâtir un hôtel ici à Hébron, du côté d'Hébron, et puis adorer le Seigneur. La foi, donc, règle les conflits, mais aussi la foi nous aide et nous permet de... et la solution pour accomplir ce qui est juste. On voit ça dans la première partie du chapitre 14. Vous savez, à cette époque-là, attaquer, conquérir, soumettre d'autres rois et d'autres districts, tout cela, c'était l'activité courante dans toute cette région du pays du croissant fertile à l'époque d'Abraham. Ces régions couvraient un territoire allant de Shinéar. J'ai une petite carte ici. Alors, Shinéar, c'est carrément par là. C'est la plaine de Babylone. Hein, et donc, Amraphel, ici, le premier roi qui est présenté dans le chapitre 14, c'était certainement celui qui a pris un des descendants sur le trône de Nimrod. Donc, et là, tout ça, c'est le croissant fertile, parce que là coulent l'Euphrate et le Tibre. Et donc, dans cette région-là, c'était très fertile. Et donc, les rois de Babylone sont venus jusqu'ici pour assujettir tous les rois de la région. Et donc, ils débarquent et ils assujettissent les rois de la région et les assujettissent à un tribut. Et chaque année, les rois qui ont été soumis apportent leur tribut au roi de Kedorlaomer et des autres rois, cette coalition de rois de Babylone. Mais il y a un moment, ils en ont eu marre des impôts. Et donc, la 13e année, ils n'ont pas payé. En ne payant pas, ils se sont dit, il faut se préparer. Et donc, la 14e année, effectivement, débarque cette coalition de 4 rois pour combattre ces 5 autres rois. Donc, cette coalition qui est menée par Kedorlaomer. Et rapidement... ils avaient fait un mauvais calcul, quoi. Ils n'étaient pas suffisamment prêts à s'émanciper de ces rois. Les insurgés sont matés, hein, verset 10, et Lot, qui résidait, vous avez remarqué ça, hein, c'est intéressant ça, verset 12, chapitre 14, verset 12, il est dit, « Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. » Avant ça, il avait fait du camping près de la ville de Sodome, mais maintenant, il s'y était établi, connaissant pourtant la méchanceté de ses habitants. Et je pense que la précision est faite ici, parce que s'il ne s'était pas installé dans Sodome, il est fort possible qu'il n'aurait pas été capturé. Et il est fort possible aussi qu'Abraham donc, n'aurait pas eu à partir à sa poursuite et à entrer en guerre. Mais il est pris et il est emmené captif et il s'apprête à partir là pour les grandes vacances, mais plutôt vers Babylone. Un rescapé arrive Et il annonce la nouvelle à Abraham, qui arme aussitôt 318 de ses plus braves serviteurs. Il part à leur poursuite et il attaque de différents côtés. Il attaque la nuit et il met en déroute l'armée de Kedorlaomer. Il ramène toutes les richesses et Lot et tous les captifs. Voyez-vous, Abraham, il aurait pu se dire, bon, Lot, il a choisi. C'est pas moi qui l'ai envoyé là-bas. Vous comprenez? Il a choisi. Il a choisi Sodome. Il a choisi d'y vivre. Il a fait ce choix d'une manière très égoïste et il s'est installé dans cette ville méchante. Eh bien, Dieu lui parle à présent. C'est ça qu'il aurait pu dire. Moi, je retourne me coucher. Ou bien il aurait pu se dire, ah, c'est dommage qu'il ait été pris. Mais moi, cette fois-ci, je ne peux plus rien pour lui, quoi. Ils sont déjà partis, ils sont déjà très loin, là. Je ne peux plus rien faire. En plus, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. C'est triste. Ou encore, plus spirituel, il aurait pu dire, bon, rassembler les 318, et puis dire, bon, on va prier maintenant pour notre frère Lot, qui est parti en déportation à Babylone, et puis que Dieu se révèle à son cœur quand il sera là-bas, dans la grande misère, puis qu'il implore son Dieu, et puis Dieu aura compassion de lui. C'est pas ça. C'est pas ça que Abraham a fait. Rien de tout cela. Il n'a pas hésité un seul instant. Il part secourir son frère parce qu'il sait que c'est ce qu'il doit faire. Il doit tenter quelque chose. Clairement, Abraham, il fait confiance au Seigneur pour qu'il intervienne dans cette bataille. Il a toute raison de craindre. Et nous aussi, nous devons faire ce que nous savons juste, ce qui est notre prérogative, même si les choses peuvent être ou sembler périlleuses, ou coûteuses, ou si elle est difficile, impossible peut-être même à nos yeux. Mais la vie du croyant, la vie de l'Église, est une vie de foi qui s'appuie non pas sur ce qu'elle voit ou sur les circonstances favorables, mais sur ce qui est juste, sur ce qui est vrai, sur ce qui est charitable. Dans quelques jours, le groupe de jeunes va partir en Côte d'Ivoire. Ils ont entre 16 et 23 ans. Ils vont construire les murs de la première église Djoula. Ils vont pour évangéliser dans des villages. Ils vont faire du soutien scolaire. Et c'est une étape de foi. Pour plusieurs parmi eux, ils ne sont jamais allés là-bas, ils ne connaissent rien de ce pays. C'est un pas de foi. Et quand les gens nous disent, mais pourquoi là-bas? Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux? Ou est-ce que ce n'est pas un peu difficile pour ce groupe de jeunes? C'est simplement parce que leur vie est différente. Elle est dirigée par une autre prérogative, c'est la prérogative de la foi. C'est ça qui les pousse. Ils mettent leur foi en œuvre. Ils sont obligés de faire confiance au Seigneur. Il y a tout un tas de choses qui leur échappent, qui échappent à leur contrôle. Mais ce qui n'échappe pas à leur pensée, c'est que Dieu est au contrôle de toutes ces choses et qu'il saura les conduire et les diriger. Nos armes à nous, elles ne sont pas charnelles, hein, elles sont spirituelles. C'est la prière, c'est l'action. Je repensais à ce projet extraordinaire en Chine, lorsque en 1981, il y a des équipes de portes ouvertes qui ont fait entrer 1 million de Bibles en une seule nuit en Chine. 1 million de Bibles. C'était un défi monumental. c'était un défi qui devait être secret. Ils n'ont jamais pu faire de campagne, c'est jamais paru dans les journaux de portes ouvertes. Il n'y a jamais eu de conférence spéciale pour qu'on explique à toute la population des chrétiens du monde entier qu'on va faire entrer. Non, tout ça s'est fait simplement leur équipe en relation avec Dieu. 1 million de Bibles a été débarqué en une nuit sur les plages de Chine. Pourquoi ? Ils l'ont fait parce qu'à l'époque, la Chine mourait sans la connaissance de la parole de Dieu. Si aujourd'hui, il y a 80 millions de chrétiens en Chine, c'est parce qu'il y a des chrétiens comme ceux-là, en 81, qui ont fait rentrer ces Bibles en Chine. Ils savaient que c'était ce qui était juste de faire. Ça nécessite la foi, ça nécessite la confiance dans leur Dieu. Ça nécessite la confiance dans un Dieu qui est tout-puissant, qui est miséricordieux, qui est compatissant et qui peut porter ce qui n'est pas, ce qui est trop compliqué, ce qui nous dépasse. Pour eux, il y avait des risques financiers. Pour eux, il y avait des risques humains. On va en prison là-bas pour... on allait en prison pour ce genre de choses. Il y avait un vrai enjeu. Mais ce qui les a décidés, c'est la foi. Leur vie tout entière entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Quel est votre défi de foi aujourd'hui? Peut-être c'est dans votre famille. Une situation qui vous dépasse. Dans votre travail, dans votre couple, dans votre église, une situation, un enjeu où simplement on peut faire simplement appel à Dieu. La foi, c'est la solution pour accomplir ce qui est juste. Qu'est-ce que Dieu vous demande? Vous n'avez aucune garantie. Sauf celle que Dieu entend vos prières et qu'il y répond. Alors simplement, levez-vous comme Abraham l'a fait et puis avancez par la foi. Notre troisième point, c'est pour donner gloire à Dieu. On a besoin de la foi pour donner gloire à Dieu. Ici, l'enjeu est assez extraordinaire. Dans les versets 17 à 24, après cette grande victoire, Abraham, il revient et il est à la tête d'un butin colossal. Il était déjà très riche. Maintenant, il a tout. Un peuple qu'il a délivré héroïquement, qui porte ses regards sur lui, en disant, mais on lui appartient, c'est lui qui nous a sauvés, on lui appartient. Et naturellement, le verset 17, le roi de Sodome vient à sa rencontre pour le remercier. Et lui faire une offre. Et l'offre qu'il fait, on la trouve au verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Vous voyez la chose? Il a raison. « Donne-moi les personnes, c'est mon peuple, c'est les gens de mon district, de ma ville. Je les récupère, mais toutes les richesses, tout ce que tu as, c'est pour toi. » Il faut se souvenir que le roi en question, il gouverne une ville tellement plongée dans le mal que Dieu va la détruire purement et simplement par le feu. Mais juste avant qu'il ne lui fasse cette offre quand même phénoménale, Abraham est rencontré par un autre roi, Melchisédek. Vous avez vu, c'est un peu bizarre. Le roi de Sodome qui arrive au devant d'Abraham, il va lui faire cette offre, et puis on ne sait pas d'où il sort, un autre roi arrive, Melchisédek, et puis il rencontre Abraham. Melchisédek, son nom, ça signifie roi de justice, et puis il est mentionné ici qu'il est le roi de Salem. Salem, c'est la paix, et c'est certainement l'ancien nom pour Jérusalem. Il est sacrificateur du Dieu très haut, nous dit le texte. Sacrificateur du Dieu très haut. On n'a jamais entendu parler de sacrificateur avant cela dans le livre de la Genèse. Moïse n'est pas encore là. La loi n'a pas encore été donnée. Les Lévites ne sont pas là, ils n'existent pas. Aucun sacrificateur n'existe. Mais lui, il est déjà sacrificateur du Dieu très haut. Et voilà le point ici. Il dit, il bénit Abraham et il bénit Dieu. Et regardez ce qui est dit au verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et ça, c'est le point. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Clairement, ce que Melchisédek fait savoir ou rappelle à Abraham, c'est Dieu qui t'a donné cette victoire. Vous étiez 318. Ils étaient des milliers et des milliers. C'était quatre rois. Ils avaient battu cinq rois avec toutes leurs armées. Cinq rois qui étaient prêts à combattre. Et toi, avec tes 318 serviteurs, tu les prends tout. Tu leur prends tout et tu les mets en déroute. Il dit, c'est Dieu qui t'a donné cette victoire. Alors, à lui la gloire et l'honneur. L'honneur de la victoire sur une coalition militaire plus puissante revenait évidemment au Dieu souverain, El Elyon, et non aux prouesses d'Abraham. Et Abraham reconnut cela immédiatement et il donne la dîme de tout. Simplement, et il donne la dîme à Melchisédek. Sa dîme, c'est, il reconnaît, et c'est aussi ce que l'on fait quand on donne notre dîme, on reconnaît que c'est Dieu qui pourvoit nos besoins, c'est reconnaître que c'est Dieu qui est le Seigneur de notre vie, et à lui soit l'honneur, et à lui soit la gloire. Et c'est sa manière d'adorer ici, et de célébrer celui qui donne la victoire. Et après cette scène quelque peu mystérieuse, Béra réapparaît, roi de Sodome, et lui fait cette offre. Et Melchisédek, on l'entend, on ne le retrouve plus jamais, sauf dans un psaume 110, et puis en hébreu au chapitre 7. Mais ici, Béra, roi de Sodome, lui fait donc cette offre. Prends pour toi toutes les richesses, laisse-moi simplement les gens. Et Abraham, fortifié par sa rencontre avec le roi de justice, répond avec fermeté, versets 22 et 23, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre qui m'a donné cette victoire. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, pas même un lacet. Je veux rien de toi. Pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. » Et là, il y a une attaque très subtile à cet endroit-là. Une attaque très subtile ici du roi de Sodome, Béra. Béra, les noms dans la Bible ont une signification. Béra, ça signifie fils du mal, ou qui brille en science, c'est-à-dire rusé. Et donc là, cette attaque contre Abraham, juste après cette bataille, pour corrompre la bénédiction de Dieu. Il faut comprendre ce qu'il est en train de faire ici, Béra. Sous l'influence du diable, je crois. Si Abraham acceptait la proposition du roi de Sodome, il aurait permis à ce méchant roi d'imputer la richesse d'Abraham à sa propre générosité. Abraham aurait été riche grâce à Béra. Et donc, pas grâce à Dieu. Vous voyez l'enjeu ici? Dieu disait à Abraham, « Moi, je vais te faire prospérer, je vais mettre ma bénédiction sur toi. » S'il accepte à ce moment-là les richesses de Sodome et de tous les autres rois, on ne sait plus faire la différence entre la bénédiction de Dieu et les richesses de Béra. Et là, tout tombe par terre. Et c'est pour ça, je crois véritablement, que Melchisédek est venu à la rencontre d'Abraham pour fortifier la foi d'Abraham. Pour lui dire, Abraham, ne te laisse pas piéger ici. C'est vrai. Ça serait justice presque que tu empoches ce pactole. Mais dans ce cas-là, c'est Béra qui t'a enrichi. Et Abraham a compris ça et nous dit, je ne veux pas que tu puisses dire ou que quiconque puisse dire, Abraham a été enrichi par Béra. Même pas un lacet. Je ne dois rien de rien à Béra. Tout m'a été offert par Dieu. À qui devons-nous ce que nous appelons bénédiction ? À notre perspicacité, à notre intelligence, à notre savoir-faire ? Qui reçoit la gloire ? Nous ? Dieu ? Qui reçoit la dîme ? Si ce sont des bénédictions, alors elles viennent de Dieu, donnant-lui toute la gloire. La foi nous permet de reconnaître l'auteur de tout don parfait, de toute grâce excellente, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. C'est lui qui nous donne. Et Abraham donna gloire à Dieu et il ne le regretta pas. Il ne regrettera jamais l'offre de Béra. Regardez chapitre 15, verset 1 seulement. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Très grande. On n'est jamais perdant quand on accepte de marcher par la foi en Dieu. Ce matin, est-ce que vous avez besoin de foi pour régler un conflit ? Est-ce que vous avez besoin de foi pour comprendre qu'il vaut mieux perdre apparemment aux yeux des hommes ? Pour gagner la paix. Est-ce que vous avez besoin de foi pour accomplir ce qui est juste ? Peut-être dans une situation qui vous inquiète, où vous pourriez vous défausser. Peut-être vous avez besoin de foi pour rendre gloire à Dieu. Accepter de passer discrètement, inconnu, mais bien connu de Dieu. Alors vous avez besoin de cette rencontre que Abraham fait avec Melchisédek. Certainement, Melchisédek, c'est une figure de Jésus-Christ. Il est le roi de justice. Il est le roi de la paix. Il est le souverain sacrificateur dont nous avons besoin. Ce souverain sacrificateur éternel. Il est le roi qui n'a pas de descendance, pas de généalogie. Il est roi pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Vous avez besoin de cette rencontre-là. Cette rencontre qui vient vous fortifier dans votre foi. Il dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, après avoir fait ce récit de tous les héros de la foi, de tous ceux qui ont marché avant nous par la foi, il dit, courez, courez, les regards fixés sur Jésus, qui suscite la foi et qui mène à la perfection. C'est lui qui a réglé le plus grand des conflits. La terre entière, et on l'a vu dans Genèse à plusieurs reprises, et encore là, la terre entière est en conflit avec son Créateur. Et Jésus a accepté de perdre sa propre vie, d'abandonner toute sa gloire pour pouvoir nous racheter et mettre un terme à ce conflit, pour toujours. C'est lui, ce Jésus, qui a accompli tout ce qui était juste, parfaitement, en tout temps, en toutes circonstances. Il a accompli ce qui était juste parce qu'il dépendait du Père. Et puis c'est lui qui a donné gloire à Dieu. De son vivant, sur la croix encore, accomplissant l'œuvre de notre salut. Et aujourd'hui encore, pour l'éternité, il célèbre la gloire. Sa vie et son œuvre célèbrent la gloire du Dieu Tout-Puissant. Alors, qui d'autre peut mieux nous fortifier dans la foi au moment où on a cette inquiétude par rapport à un conflit ou par rapport à ce qui est juste d'accomplir ou par rapport à ce moment où on aimerait bien être enrichi ou être vu aux yeux de ce monde ou tirer notre épingle du jeu comme on le dit ou plutôt que de faire simplement confiance à Dieu. Alors, laissez-vous rencontrer miraculeusement par ce roi Jésus-Christ qui va vous fortifier dans votre foi. Portez vos regards sur lui, sur sa personne, sur son œuvre. C'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Que son nom soit loué et que notre Dieu soit glorifié dans notre vie. Amen. Prions.